Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir sélectionné des films pour les festivals. Je crois que je suis entré dans le cinéma, ou dans le processus de faire ces films à travers le sujet plutôt. Parce que moi j'ai fait des études de communication, mais pendant mes études j'ai travaillé dans un centre de recherche sur le Holocauste et sur la Shoah. Et là j'ai travaillé pas mal sur la représentation de la Shoah dans l'audiovisuel. Et quand je suis allé à Rwanda la première fois, c'était plutôt pour... parce que c'était le génocide qui m'intéressait en tant que sujet. Mais quand j'étais là, en parlant avec les gens là-bas et surtout avec les jeunes, je me suis dit que je voulais faire un essai de documenter, de faire au début c'était juste l'idée de faire une vidéo là-dessus. Et puis ça s'est développé plus en plus pendant des années et à la fin c'est devenu le film qu'on va projeter cet après-midi. Et on est deux qui ont, comme vous avez dit, qui ont réalisé le film. Et mon ami Angelos, il a fait, parce que moi j'ai fait des études de communication, mais lui il a plutôt fait la démarche classique de cinéma, parce qu'il a fait des études de cinéma.
Et de photographie.
Ouais. Et voilà, c'est-à-dire, si on pourrait le dire comme ça, c'est lui qui s'occupait plutôt du côté cinématographique, et moi je suis plutôt de développer le sujet ou le contenu des films.
Quand on veut travailler sur la mémoire de l'Holocauste, plus particulièrement autrichien, il y a de suite la question de l'image, de l'archive, l'image fixe, l'image animée. Il y a des historiens qui ont travaillé, des livres, des essais, des analyses, Anna Arendt, etc. Le support image, est-ce que aujourd'hui, avec le décalage, parle vraiment du cœur de l'Holocauste?
Enfin, là, il y a plusieurs, plusieurs approches là-dessus, je crois. Et l'approche qu'on a choisie pour notre film, là, c'était justement, on ne voulait pas faire un film sur le génocide, mais plutôt sur le processus de réconciliation, parce qu'il y en a déjà pas mal sur le génocide même. Et lié à ça, on ne voulait pas utiliser les images d'archives. Et puis il y a tout un départ autour de la question comment on peut utiliser ces images, si on devrait les utiliser ou pas, quelle est la représentation que ces images donnent, les images historiques, les choses qui se sont passées dans le Holocauste ou dans le génocide au Rwanda. Et le choix que nous avons fait dans notre film, c'est que justement, on ne voulait pas trop parler des génocides, des événements du génocide, et surtout pas utiliser des images historiques. C'est un peu un choix esthétique aussi, ou une approche qu'on avait suivie. L'idée, c'était que c'est plus vrai, pour nous, c'était plus vrai de démontrer le témoignage direct des personnes qui se rappellent ou qui racontent les événements qui se souviennent. Mais il y a plusieurs approches, plusieurs théories là-dessus.
Alors, puisque vous voulez plus particulièrement parler de ce documentaire sur le Rwanda, A Place for Everyone, justement, voir les lieux aujourd'hui avec plus de 20 ans de décalage, ça a une force évocatrice, une force émotionnelle, plus forte que si on montrait les documents d'archives, le génocide lui-même, les cadavres, les lieux des fosses communes, etc. Et par la parole, on reconstruit quelque chose qui a une force évocatrice plus puissante. C'est ça la démarche?
Oui, je crois, c'est un choix. Moi, je trouvais que c'est plus direct.
Oui, c'est plus... ça, bien sûr.
C'est là l'image directe à travers l'image et la parole.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
Des personnes qui ont vécu les choses.
Oui, il n'y a pas d'intermédiaire en fait.
n'y a pas d'intermédiaire entre vous et le sujet, donc vous êtes en prise directe. C'est vraiment du documentaire, en ça, je trouve, effectivement.
Mais c'est un peu... C'est lié à la méthodologie ou à l'approche qu'on a pris pour qu'on a choisi pour notre film. On n'utilise pas des entretiens, c'est plutôt observationnel, tout le film. Et c'est pour ça aussi que ça n'aurait pas été un bon choix d'inclure des images d'archives, parce que ça ne colle pas en termes d'esthétique. Mais l'idée était justement de faire quelque chose direct, quelque chose dans les présents. On ne voulait pas retourner trop au génocide même. L'idée, c'était de faire un film sur le Rwanda d'aujourd'hui, ou même sur l'avenir du Rwanda, un regard un peu sur l'avenir à travers la perspective des jeunes, surtout.
Des jeunes qui sont nés pratiquement au moment du génocide, ou quelques années après, comment les nouvelles générations peuvent vivre ensemble sur le même territoire.
Et du fait, le fait qu'il n'y ait pas d'archives, à la fin du film, quand on découvre un charnier, combien 20 ans après, presque, enfin aujourd'hui ça fait 20 ans après, il y a un effet incroyable, c'est-à-dire tout d'un coup l'histoire est là, sous nos pieds, juste. C'est très très fort, je dirais. On comprend que avant de retrouver, d'ouvrir ce charnier, de retrouver ses corps, ses os, aucune réconciliation n'était possible, aucun deuil n'était possible, aucun pardon n'était possible. Et ça, aujourd'hui, donc 20 ans après, si le film avait été truffé d'images d'archives, effectivement, ça n'aurait pas été possible. Cet effet-là, parce que c'est un effet, en fait, c'est une découverte, cet effet-là n'aurait pas abouti. Et puis moi, ce que je sens bien dans votre film, c'est que vous êtes en prise directe, il n'y a pas d'intermédiaire, vous êtes avec votre sujet. C'est-à-dire que c'est un rapport direct, c'est ça qu'on filme, en fait. C'est ça que vous filmez. C'est ce rapport-là entre eux et vous. C'est pas tellement entre eux et eux, enfin si, bien sûr, ce sont eux le sujet, c'est le jeune entre autres, et puis la communauté, mais c'est aussi vous qui s'enfilez, vous y allez, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne démarche. Je voulais vous poser une question, vous faites toujours des films avec Angelo ?
Oui.
Enfin, donc ça y est, vous êtes devenu un couple de cinéma.
Ouais, ça c'était le premier film, on travaille sur un deuxième maintenant. Oui. On travaille toujours ensemble.
Et ça se passe bien aussi ?
Oui, généralement oui. Parfois pas toujours, disons, mais c'est normal, c'est un processus créatif.
C'est très difficile de travailler d'être deux réalisateurs.
Oui, ouais, c'est compliqué aussi. Enfin, surtout les projets au Rwanda, c'était très compliqué parce que lui, il habite en Grèce, moi j'habite en Belgique. Le film était au Rwanda, tourné dans une langue qu'on ne comprend pas. C'est un sujet qui est super compliqué, très sensible. C'était pas un sujet facile pour un premier film, je dirais. On a beaucoup appris.
Oui.
Oui, justement, dans beaucoup de séjours au Rwanda, vous êtes retrouvé avec Angelo sur place, ou c'est vous qui êtes allé tout seul avant? Il y a un long temps de rencontre des gens, du terrain, de la compréhension des lieux, de ce qui s'est voué dans ce génocide-là. C'est un très long temps de préparation pour avoir en particulier les deux jeunes, elle est Tutsi, lui il est Tutsi, je ne me trompe, Tarsis et Benoît. Hein, et vous les avez rencontrés comment, la famille? Quel temps, des intermédiaires peut-être pour les approcher?
Moi j'ai des amis sur place qui habitent en Autriche et aussi au Rwanda, et qui ont grandi au Rwanda, et c'était à travers eux qu'on a eu un accès assez privilégié à ce petit village dans une colline au milieu du pays. Et avec Benoît, la fille Tutsi, dans le film, c'était plus facile, je dirais, parce que pour les Tutsi, c'est beaucoup plus facile de parler sur les sujets de la réconciliation des génocides, parce qu'ils ont un peu la supériorité morale. Ils ont envie de raconter leur histoire. C'est important, mais ce que pour moi c'était encore plus important de aussi montrer l'autre côté. Parce que des gens comme Tarsis qui a rien fait pendant le génocide, il avait 7 ans, des gens comme lui qui ont grandi avec une sensation de culpabilité.
Oui, ils portent pas, le poids.
Ils ne peuvent pas en parler parce que ils sont toujours les sentiments d'infériorité vers les Tutsis. Et puis, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la situation au Rwanda, il y a aussi. Généralement, c'était très difficile d'approcher les Hutus parce qu'ils ont peur d'en parler. Parce qu'il y a des lois très strictes, assez strictes. Quel est le mot en français, des divisionnismes ou des révisionnismes,
oui,
qui sont appliqués dans une façon assez stricte. Et dans des petits villages où on était, il y a plusieurs membres qui ont été mis en prison. Je ne peux pas chercher si c'était juste ou pas, mais ils disent à quelqu'un qui disait un mot vers un voisin, et le voisin a appelé les autorités, et ils l'ont mis tout de suite, disons, à la prison. À travers ces lois du révisionnisme. C'est pour ça qu'ils ont très peur d'en parler. Et c'était difficile au début. Ça a pris beaucoup de temps avec Tarsis de prendre la confiance qu'on va, on va pas lui mettre dans une situation qui potentiellement peut être très dangereuse pour lui ou pour sa famille, surtout pour son père qui est un génocidaire.
Vous avez aussi travaillé donc sur la Shoah, et en fait, on pourrait dire que, comme là, dans l'exemple que vous venez d'expliquer, c'est que l'histoire est écrite à un moment donné, c'est-à-dire qu'il y a le génocide et après quelqu'un écrit l'histoire, et on n'a plus le droit forcément d'y revenir, même pour la Shoah aussi. On nous donne des. Quelqu'un écrit l'histoire et plus personne ne peut retravailler dessus. Et vous, vous êtes confronté à ça, en fait, de. Non pas forcément la réécrire, mais réécouter ce que d'autres auraient à dire. C'est un peu le problème de ces bouleversements humains, on va dire. Hein. Ouais. C'est qu'à un moment donné, on écrit et on ne peut plus revenir en arrière.
Ouais. Je crois que c'est un processus. Il y a des narratifs qui sont là. Et je crois qu'il faut être conscient des narratifs qui existent.
Sur les témoins, les narratifs.
Sur le sujet du génocide au Rwanda ou des interprétations de ce qui s'est passé. Et moi, je trouvais justement que tous les films que j'ai vus, je crois que j'ai vu aucun film, ni fiction, ni documentaire sur le côté des Hutus. Et c'était pour ça, pour moi, c'était important pour faire un film qui est juste, qui est équilibré dans le sens de montrer les deux côtés. Je trouve que le côté des Tutsis est très important, mais on le connaît déjà. Il y a des films là-dessus déjà. Et je voulais inclure le côté Hutu. Et c'était beaucoup plus difficile, comme j'ai dit. Et dans les films, on les voit, le narratif de Tarsis est moins fort. Parce que ça nous coûtait beaucoup plus d'entrer dans sa communauté, dans sa famille. Ils étaient très. Ils avaient peur, en fait.
Est-ce qu'avec les protagonistes que vous avez choisis et le lieu où ils habitent, ils avaient déjà eu l'expérience des Gachacha, cette tentative de réconciliation grivoise du forum où génocidaires et génocidés étaient ensemble? Ça paraissait un peu étrange, peut-être on est un peu loin, mais en même temps, un effort est pratiquement rapidement après le génocide, de mettre à nouveau les deux communautés ensemble pour se parler, et qui faisait l'arbitre, qui faisait la balance, et qui garantissait que la parole pouvait ne pas entraîner un danger de l'avoir prononcé.
Il y en avait, je crois que la cachacha, au début, c'était prévu jusqu'à 2008, mais à la fin, ça a pris jusqu'à 2012. Et justement, tous les films sont placés dans un seul village. Et là, il y en avait la cachacha jusqu'à 2012, je crois. Et nous avons tourné le film de 2008 à 2013. On y allait pendant 5 ans, chaque année, 3-4 semaines. Pendant la période de commémoration en avril. Et les premières années, il y avait toujours la cachacha. C'est un autre sujet.
Mais est-ce que ça a changé la parole qui peut se libérer aujourd'hui ou pas du tout?
Oui.
Elle a
beaucoup aidé, à mon avis, Bacacaccia a beaucoup aidé, surtout
à connaître et à trouver les faits de ce qui s'est passé. Elle a fait du mal, en part, surtout sur les côtés Tutsi, parce qu'ils ont dû revivre, pour eux c'était dur, parce que Bacacaccia c'est un type de tribunal au niveau très local, dans les villages, où toute la communauté se retrouve, se rencontre, et les génocidaires devraient témoigner, ou les personnes qui sont estimées d'être génocidaires, et puis il y a 3-4 personnes qui jugent si c'est vrai ou pas, ce qu'ils racontent. Et les Tutsi, au moins au début, ou les victimes, ils étaient obligés d'y assister. Et c'était dur pour eux, parce que c'était de revivre les choses, de re-traumatiser les victimes. Mais de l'autre côté, c'était très très important parce que c'était très effectif pour rencontrer les corps, pour connaître combien de victimes il y en avait effectivement, et comprendre mieux le processus et l'organisation du génocide même. Et puis, ce qu'ils nous ont raconté, il y avait beaucoup de cas de corruption dans la Bacacaccia. C'est ce qui était dur aussi pour les victimes, parce que parfois il y a des villages où il y a peut-être, disons, il y avait 500 personnes qui habitent dans un village, il n'y a que 5 Tutsi qui restent dans le village. Et les Hutus qui organisaient la Bacacaccia, ils se moquaient un peu des victimes pendant le processus de la Bacacaccia, c'était une farce. Et pour eux c'était dur, parce qu'ils ont payé les juges, ils ont raconté peut-être, il y a beaucoup de petites histoires comme ça, ils ont raconté tout ce qu'ils ont fait. Et après, les juges ont décidé que, voilà, c'est pas grave, aller à la maison. Et il y avait des cas comme ça aussi. Je crois que la Bacacaccia, généralement, c'était une invention ou un outil très utile, mais avec des grands désavantages aussi.
Oui, c'est sûrement quelque chose d'indispensable. Moi, j'ai compris quelque chose à travers ce film, quelque chose de très simple, en fait. Qui paraît évident pour moi maintenant, mais c'est que pour pardonner, il faut faire son deuil. Et on ne peut pas faire son deuil si on n'a pas retrouvé les corps, si on ne sait pas comment le parent est mort. Et c'est pour ça que cette obsession de cette fille a vraiment à essayer de savoir mais pourquoi, mais comment vous l'avez tué, mais il faut un courage monstre, on dit, mais en même temps. Et l'autre demande le pardon, pardonnez-moi, mais comment vous l'avez, pardonnez-moi. Il implore le pardon presque. Elle veut savoir comment, parce qu'elle veut savoir au plus près de la vérité, sinon elle ne pourra pas faire son deuil, et à la fin elle retrouve des ossements, ou elle participe en tout cas, et là il y a quelque chose de très très fort, enfin. Et rien que, merci pour ce film, et pour simplement montrer ça aussi simplement, je veux dire, c'est une évidence, quoi. On n'y pense pas en fait, si on l'a pas vécu, on n'y pense pas. Tous les processus de réconciliation sont extrêmement difficiles à mener. Il y en a plusieurs dans le monde. Et voilà, je veux dire, la parole, c'est bien, c'est indispensable. Les images aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, elles sont nécessaires? Est-ce que on parle du négationnisme, mais si on fait des images, si on montre vraiment comment les choses se sont passées, je veux dire, le négationnisme n'a plus lieu d'être, hein, je veux dire. Enfin, c'est un peu simpliste, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on a comme outil, justement, pour lutter contre? L'image en fait partie, il me semble. Comment?
Vous faites une grande confiance à l'image, là.
Pas que,
oh, là,
non,
là,
pas
là,
que
là.
Non, pas que à l'image.
Pas uniquement, on connaît des cas célèbres qui ont nié les chambres à gaz, malgré les images, les films, les témoignages.
Nous, à simplement notre niveau, je veux dire enfant, moi j'ai pas connu tous ces trucs-là. Et je suis désolé, mais les images ont été capitales, essentielles, quand j'ai vu tous ces corps balancés avec les... S'il n'y avait pas ces images, on a beau me le raconter par écrit, ça n'aurait pas du tout le même impact. Là, c'est incarné, c'est le cas de le dire. Non, moi je pense que c'est indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à l'image ou que à l'image.
Juste, je voulais m'expliquer parce qu'on fait le festival Résistance et on a eu le témoignage de Jérôme Semla, qui a travaillé et qui a fait un film sur les caméras de vidéosurveillance en Islande. On pourrait penser que ça n'a rien à voir, mais lui, il pose la question de l'image, justement, à la fois qu'est-ce qu'on peut faire dire, qu'est-ce qu'on peut dire avec des images, comment on peut manipuler les gens. Et donc lui, il dit que c'est bien de faire l'image, mais il faut toujours avoir à l'esprit le doute. C'est-à-dire que, et c'est pour ça, la façon dont vous, on est en plein dans le sujet du Rwanda, donc, mais vous avez été très loin dans votre façon d'exprimer ça, cette confiance sur l'image, et je pense que non, l'image aussi peut nous duper, peut nous tromper, donc et elle ne peut pas être porteuse de vérité, c'est la personne qui fait l'image, c'est le réalisateur à qui on a confiance, c'est des gens qui vont parler, il faut tout un autre contexte, mais l'image en elle-même pour moi, c'est une image, c'est une représentation, et il y a quelqu'un derrière qui nous la présente. Et donc moi je crois que dans le cadre du cinéma, même du documentaire, on parlait aussi de ces documentaires, il y a du cinéma du réel, mais il y a des documentaires où on fait de la mise en scène, etc. Donc tout ça, il faut en avoir conscience, je crois. C'est pour ça que je ne vais pas aussi loin que vous dans ma confiance à l'image.
Mais c'est pour ça aussi qu'avant de parler de la vérité contenue dans l'image, on veut savoir la démarche, justement, de quel point de vue vous parlez à un moment donné, qu'est-ce que vous avez rassemblé pour nous approcher un peu plus du réel et, entre guillemets, de la vérité. C'est un travail complexe, patient, c'est un véritable engagement.
Je ne sais pas si j'ai compris la question.
Oui, bien sûr, la mise en doute de l'image comme document révélant une vérité. Mais ce qui est important, c'est la personne qui l'a collecté, qui l'a monté, qui l'a montré après. C'est aussi dans une confiance, une compréhension de votre démarche qu'on peut mettre de la confiance, et pas uniquement dans l'image et le document révélé à la fin.
Oui, enfin, à la fin, c'est les réalisateurs qui font... Enfin, c'est une mise en scène, même dans le documentaire, en faisant ces films... Je me suis rendu compte beaucoup plus que, pour moi, la différence entre documentaire et fiction est très, très faible, très floue. Il n'y a pas beaucoup de différence, je crois. Je n'ai pas fait un film fiction, ça ne m'intéresse pas. Mais à la fin, c'est évident, c'est un choix. Et même, il y a toujours même. Pour nous, c'était assez observationnel, parce qu'on ne comprenait pas, on comprend pas le Kinyarwanda. Parfois, on a mis, en total, on a tourné plus que 200 heures, et le film c'est une heure. On a mis la caméra, on a appuyé les boutons, on l'a laissé pendant des heures tourner, on est parti. Parfois, on a fait comme ça. C'est assez réduit en tant qu'approche, mais quand même, c'est un choix. Et chaque fois qu'on coupe, c'est un choix qu'on fait, qu'on doit faire. Et c'est manipulé, c'est évident.
Et sur la langue aussi.
Oui, tout à l'heure, sur la langue, je vais revenir au Kenya, au Rwanda.
Ouais, pour essayer d'aller au bout de cette question, quelle est l'origine de votre engagement? Pourquoi vous, Hans, vous avez choisi d'abord de travailler sur la Shoah, aujourd'hui d'aller au Rwanda, et puis on y viendra tout à l'heure sur le Kurdistan aujourd'hui. Pourquoi vous allez là-bas? Qu'est-ce qui fait que vous y alliez? Est-ce que c'est, comme dit Bernard, parce que vous voulez ramener des images qui prouvent quelque chose, qui racontent quelque chose? Racontez-nous.
J'ai pas dit ça.
Non,
mais j'ai pas dit ça.
Oui,
bon. Avec la question de Valérie.
Je vois que j'ai pas une réponse là-dessus. Pas une réponse directe. Pour moi, la caméra est un moyen de passer du temps avec ces gens-là. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la vie de ces personnes. Surtout des personnes dans une situation, pas dans la guerre, mais après la guerre. Les conséquences psychologiques et sociologiques d'une guerre. Et, les traumatismes de ces personnes-là. Et enfin, l'expérience que j'ai, c'est beaucoup plus facile. Si on arrive avec une caméra, elle s'ouvre beaucoup plus facilement. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je suis beaucoup plus accepté si je suis là avec une caméra. Je vis avec ces personnes-là pendant une certaine période, quelques semaines. Peut-être c'est juste pour donner l'explication. Oui, on est là parce qu'on voudrait faire un film, mais pour moi, le film, ce n'est pas vraiment le but, c'est un résultat, mais le but, c'est de comprendre la situation de cette personne-là. Je crois que c'est ça ma motivation personnelle.
De ce point de vue, c'est très réussi, parce qu'on comprend que les gens que vous filmez, avec qui vous êtes, ont confiance. Ils ont dépassé ces peurs intérieures pour avoir le courage de dire, en espérant une parole libératrice. On sent que vous n'avez pas bousculé ou remué dans le traumatisme quelque chose de supplémentaire, mais peut-être aider vous aussi dans le processus de réconciliation avec eux-mêmes et une confiance retrouvée.
Surtout, je ne sais pas encore l'autre projet au Kurdistan. Je n'ai pas encore réfléchi là-dessus, mais surtout au Rwanda, notre présence sur place a aussi beaucoup aidé aux personnes. Parce que je crois qu'on était un peu un intermédiaire. Parce que c'est un sujet, encore, même après 20 ans, c'est très sensible, ils n'en parlent pas. Mais comme on était là, on forçait un peu, ou on posait des questions, et commençait peu à peu à s'ouvrir, à parler. Je crois que ça, c'était intéressant pour nous aussi. Que peu à peu, ils commençaient à discuter entre eux et d'en parler. C'est-à-dire, la caméra, c'était un moyen pour nous, pour moi et Angelus, mais aussi pour eux d'en parler.
Et un espoir.
Ouais.
Un espoir de montrer.
Ouais.
C'est sûr. C'est certain. Ouais, je pense qu'on l'a vu encore déjà hier soir, ces gens qui voulaient absolument un bout de bras, qui tenaient leur portable, qui voulaient montrer à la face du monde tout ce qui se passait en Syrie. Il y a vraiment la volonté, le besoin de montrer, regarder ce qui se passe. C'est extrêmement simple, humain. Je veux dire, l'inverse, on imagine un blackout, pas d'image, pas de son, pas d'information. C'est extrêmement douloureux pour le peuple qui est sur place. Donc je pense qu'il y a un espoir par rapport à votre présence. Voilà. Puis il y a un effet bien connu de la caméra, qui, dès qu'on la branche et dès qu'on la fixe sur quelqu'un, effectivement, la personne se transforme. Elle se libère. Soit elle s'enfuit, soit elle se libère, et on arrive à accéder à quelque chose. C'est pour ça qu'il faut une grande éthique, parce qu'on peut revenir avec n'importe quoi, et on peut monter n'importe quoi aussi. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Est-ce que vous pensez... Moi, je suis monteur de films, donc je connais bien les histoires de manipulation. Et est-ce qu'on peut faire dire ou pas une image? Est-ce que vous, la phase du montage, vous apporte quelque chose au niveau de votre travail, de votre réflexion, puisque vous êtes vraiment dans une étude? Est-ce que c'est beaucoup sur le terrain? Est-ce que vous participez au montage, par exemple, et de quelle façon?
Oui, moi j'étais là presque tout le temps pendant le montage. Je crois que le montage, pour moi, c'est plutôt le processus créatif après. C'est plutôt le storytelling, de créer la story du film. Là, c'est plus autant le contenu, mais c'est plutôt le travail créatif après, je crois. Enfin, au moins, dans le cas du film de Rwanda, comme on a eu autant de matériel, c'est vraiment entrer là-dedans et de trouver les petits morceaux qu'on devrait mettre ensemble pour raconter l'histoire.
Et vous n'avez pas vu des petits bouts de vérité qui apparaissaient, vérité entre guillemets bien entendu, quand on mettait des images ensemble, quand des choses apparaissaient, quand on commence à mettre en scène des images, parce qu'on met en scène, puisqu'on fabrique une scène, il y a des choses qui apparaissent. C'est comme le photographe qui tout d'un coup sous son agrandisseur voit quelque chose qu'il n'avait pas vu à la prise de vue. Ça ne vous est pas arrivé au montage de retrouver de redécouvrir?
Et c'est surtout au montage, enfin, comme c'était le premier film, où j'ai clairement remarqué que la différence fiction-film documentaire est très floue. C'est très manipulatif le montage à la fin.
Forcément, ça n'est que ça.
Non, mais j'avais une question aussi, c'était par rapport... Parce que vous avez dit que ce film il se fait dans une langue que vous ne connaissez pas. Donc comment ça s'est passé? Qui étaient les traducteurs? Comment vous avez pu communiquer avec les personnes?
Je crois que la personne la plus importante dans le tournage, c'était l'interprète. C'était plus important que nous. Et c'était la personne clé qui... parce qu'on a, on y allait pendant 5 ans, on a travaillé avec plusieurs personnes, on a changé parce que pour trouver la bonne personne, je crois que c'était juste après 3 ans qu'on a trouvé la personne qui... C'était très difficile parce que dans ce cas spécifique, l'important c'était que ça devait être une personne qui est acceptée dans la communauté, une personne locale, rurale, mais aussi une personne qui était capable de comprendre pour nous, de comprendre un petit peu le cinéma ou les idées qu'on avait. Et c'était un vrai intermédiaire, beaucoup plus qu'un interprète. Et la personne avec laquelle on a travaillé, c'était idéal à la fin. Il était très très bon. C'était plutôt un co-réalisateur, je dirais presque, parce que c'était lui qui devait intervenir s'il le fallait, parce que nous, on ne comprenait rien. Parfois, on est sorti, on laissait parler les gens pendant des heures. Et c'était lui qui nous disait oui, c'est bon ou c'est pas bon, laissez tourner, ou ça sert à rien. On quitte. Hein. Et c'était lui aussi qui devait créer l'atmosphère de confiance. Les gens devaient prendre confiance avec nous, mais parfois c'était pas si facile parce qu'on était vraiment loin en termes de culture, de loin. Mais lui, il avait un bon rapport avec les personnes. Hein. Pas autant avec Tarsis et Benoît, les deux protagonistes avec lesquels on a passé beaucoup de temps, on les connaissait très bien. Mais les autres, c'était surtout la communauté du village, les vieux qui étaient très sceptiques, des choses comme ça.
La langue kinyarwanda au Rwanda, en fait, unit déjà le peuple, les communautés Tutsi et Hutu. Et de pouvoir parler dans sa propre langue maternelle, c'est toucher un seuil de vérité supplémentaire.
Oui, tout au début, on a... commencer à donner un peu en français, en anglais, on l'a laissé tomber très vite.
Le français a reculé au bénéfice de l'anglais aujourd'hui.
Oui, ça a beaucoup changé maintenant. Mais c'était très vite, c'était clair qu'il fallait le faire au Kinyarwanda. Surtout avec les gens au village qui parlent quelques mots de français, peut-être, mais très, très mal. Mais c'est parce que c'est beaucoup plus authentique, c'est beaucoup plus vrai, ils se sentent beaucoup plus à l'aise. Et à la fin, ça a déterminé aussi notre approche, qu'on s'est réduit beaucoup, parce qu'on ne comprenait pas, alors on les laissait parler pendant des heures. Normalement, on n'intervenait pas, parce qu'en tout cas, on ne comprenait pas. Et de l'autre côté, c'était intéressant, parce que même si on ne comprenait pas, on savait, j'ai compris si c'est important ou pas, si c'est vrai ou pas, s'il y a... Parce qu'on sent l'émotion, même si je ne comprends rien du Kinyarwanda, mais souvent je pouvais dire oui, ça c'est bon. Et je demandais à l'interprète si c'est bon ou pas, et normalement c'était. Je trouvais le bon moment. Je savais déjà, même si je ne comprends rien de ce qu'il parlait.
C'est magnifique. Aujourd'hui, vous tournez votre caméra vers une autre zone du monde. Vous arrivez du Kurdistan irakien. Le projet est complètement bouclé, vous arrivez avec tous les documents, les témoignages que vous étiez allé chercher.
Oui, je suis rentré hier en fait. On a commencé à faire un autre film, et de nouveau c'est un sujet pareil, c'est sur la minorité des Yézidis au Kurdistan, en Turquie, des réfugiés qui ont été massacrés et capturés par IS, Daesh. L'année passée. Et je viens de passer deux semaines maintenant avec eux, et en avril, on a passé trois, quatre semaines avec eux. Et voilà, c'est un sujet pareil en fait. C'est de nouveau les conséquences de la guerre. On passe du temps avec les victimes. C'était très intéressant en fait.
Intéressant, c'est une façon de le qualifier. Vous allez de victime en victime pour nous dire comment notre monde fonctionne. L'idée de ce collectage de témoignages, c'est pour nous informer différemment de ce que l'on reçoit comme nouvelles de cette zone-là et des enjeux.
Oui, dans ce cas-là, peut-être c'est un peu différent parce qu'au début, on voulait aller en Syrie ou avec des Syriens. Mais on a vu très vite qu'il y a plein de reportages là-dessus déjà, qu'il y a plein de journalistes en Syrie ou à la frontière avec la Turquie. Et on voulait aller un peu dans une région où il n'y a pas, de journalistes, justement. Et on ne voulait pas faire un reportage, justement. On a passé plusieurs semaines avec eux aussi pour... L'idée, c'est de faire un portrait sur les Yézidis, sur la culture, les traditions et la situation actuelle. Surtout avec la... Ils sont là dans les camps des réfugiés. Et ils ont beaucoup de membres de la famille, surtout des femmes et des enfants, ils sont avec Daesh. Ils sont un peu, ils veulent tous partir en Europe, parce qu'ils sont traumatisés, ils ont peur, même en Turquie, ils ne veulent pas rester là-bas. Mais en même temps, ils se sont forcés de rester parce que les femmes sont à Mossoul, à Tal Afar, à Raqqa. Ils sont en contact, c'était très intéressant de voir, il y a tout une économie autour de ces femmes en fait. Des marchés dans les territoires de Daesh, mais aussi du côté de Kurdistan, une économie de libérer ces femmes. Il y a un bureau officiel du gouvernement qui fait des essais d'entrer dans les négociations avec Daesh, mais aussi un secteur privé, disons, des privés qui font les mêmes essais et parfois ils sont plus effectifs que le gouvernement kurde. Voilà.
C'était une question un petit peu plus globale parce que vous mettez le focus directement sur les gens, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu. Vous vivez en Belgique actuellement, vous m'avez dit, donc par rapport au Rwanda quand même il y a une bonne implication. Et donc la part de ceux qui observent, qui vont observer, qui vont filmer les extérieurs, mais la part justement dans ces chaos, que ce soit en Irak ou que ce soit au Kurdistan ou partout, et donc au Rwanda avec la Belgique et l'Occident, quoi. Est-ce que pour vous, ça, il y a une place et où vous mettez la place de cette réflexion-là?
T'es venu de l'extérieur, vous dites?
Ben, les interventions occidentales, oui. Parce que souvent ces chaos, ils sont pas... Souvent ces chaos ne sont pas autoproduits, spontanés à l'intérieur des pays. Hein, que ce soit pour le Rwanda, qui avait fait les cartes d'identité, avait séparé les peuples avant, l'Irak, qui est intervenu et a bousculé ce pays, etc. etc. Donc, puisque nous sommes occidentaux, ça vient un peu de chez nous quand même. Il y a quelque chose en tout cas qui est
sûr. Oui, dans les deux, à mon avis, dans les deux cas. Mais on n'en parle pas. Justement parce qu'on ne peut pas tout raconter. C'est un film, c'est pas un livre. C'est quelque chose qu'on a appris aussi à travers les films de Rwanda. Au début, on voulait trop dire, trop raconter, mais ça ne marche pas. Je crois qu'il faut se limiter. Et ce n'est pas un reportage justement qui explique tout. C'est un autre produit, c'est un autre film. L'idée, c'est de donner un regard sur la perspective des personnes qui sont dans le film. Et pas autant le contexte politique et économique autour, qui est très intéressant, mais c'est un autre film.
Du coup, là, ce film, il est en cours, c'est-à-dire que vous avez prévu de retourner, de suivre pendant plusieurs mois encore la situation de ces femmes qui ont été enlevées, en fait, et qui reviennent, pour certaines, auprès de leur famille. Donc c'est ça que tu filmes les retrouvailles. Tu as l'intention de revenir plusieurs fois. Comment ça se passe? Comment tu as construit ton projet de film?
C'était un peu l'idée. L'idée, c'était d'accompagner. Justement, on a choisi une famille qui a une fille capturée et on voulait les accompagner pendant des mois, des années peut-être. En fait, cette fille a été libérée il y a 4 jours. Ah. On était là, c'était une grande surprise, ils n'attendaient pas ça. Et pour eux c'était super, pour nous c'était super, mais pratiquement le film est presque terminé maintenant, parce qu'on a tout.
Oui, tu me disais hier qu'effectivement il y avait un grand mouvement de joie parce que ils avaient retrouvé leur fille et puis c'est leurs petits-enfants aussi, puisque c'était une femme qui était mariée. Son mari a disparu, mais ses enfants sont en vie. Est-ce que, comme on peut dire dans le cas des traumatismes au Rwanda, il y a aussi le moment de joie des retrouvailles, et en même temps, tu me parlais des traumatismes de ces femmes qui vont les poursuivre et qui font que on est quand même en plonge dans une situation d'horreur, quoi. Comment tu penses y retourner quand même pour suivre la suite de ce village?
Oui, ça c'est peut-être une chose qui reste encore à faire. En fait, je viens de rentrer, on a filmé, je sais pas, 20-30 heures, et on a traduit peut-être une ou deux. On a tourné là-dessus, mais je passe encore toutes les traductions pour connaître tous les détails. Justement, la question qui m'intéresse aussi, c'est la réintégration de ces femmes dans leur communauté, parce que c'est quand même une communauté très traditionnelle, très conservatrice. Et apparemment, ça marche assez bien, mais ça m'intéresse parce que le cas du viol, il est fort, il est très fort, mais encore pire pour les Yézidis. Parce que, comme on dit, la virginité, c'est vraiment un truc très sacré pour eux. Mais apparemment, le leader religieux, il a lancé un appel aux Yézidis de faire un effort, de réintégrer ses filles. Et ça marche relativement bien du côté des communautés. Et puis il y a le niveau individuel aussi. Je ne sais pas encore, il faudrait retourner peut-être. Parce qu'on a filmé avec une fille qui est rentrée, ou qui a été libérée en avril, on a passé un ou deux jours avec elle. Et après, la famille nous a dit de laisser tomber parce qu'elle était vraiment traumatisée, elle n'était pas du tout bien. Mais on l'a rencontrée maintenant, enfin, je l'ai vue une heure. Mais elle était beaucoup mieux maintenant. Je sentais qu'elle était normale. Enfin, l'impression qu'on tenait, il y a deux mois, on voyait tout de suite qu'elle n'était plus la même personne. C'est-à-dire, je crois que... Enfin, en fait, ça m'intéresse, il faudrait voir, il faudrait passer avec du temps avec eux pour voir comment ça marche. Ce que je sais, qu'il y a deux approches. Une approche, c'est de réintégrer cette fille dans leur famille, dans leur communauté, de les laisser au Kurdistan, ou en Turquie, mais plutôt au Kurdistan. Et l'autre approche, il y a un programme du gouvernement allemand qui font venir, ils ont fait venir une centaine de filles qui ont été libérées en Allemagne. Et après les psychologues, les deux approches sont possibles. Donc, c'est faire sortir ces filles traumatisées de leur ambiance, culture, de recommencer vraiment une nouvelle vie. Il y a certains qui critiquent ça, qui disent qu'il faut stabiliser la personne avant, il faut la réintégrer dans la communauté. Des autres disent que non, c'est trop fort, il faut la faire sortir tout de suite et couper le passé. On n'est pas encore arrivé là, avec le film.
Si tu veux réagir à ça, ou on le réserve pour la conférence de presse, Ahmed Ali, kurde lui-même.
La communauté yézidi et kurde, c'est une communauté assez fermée. Et c'est la raison pour laquelle ils ont pu garder leur confession millénaire. Pratiquement, c'est la première religion monothéiste. On trouve les sources de toutes les religions dans l'ancienne religion des Kurdes, le zoroastrisme, qui hésitait, c'est la suite du zoroastrisme. Donc cette communauté est fermée, comme vous avez mentionné, et c'est difficile d'avaler cette insulte, cet acte, mais malgré tout, tout le monde sache que ces filles sont des victimes, pour cela que il y a une compréhension de plus en plus plus large et d'intégrer les filles sur place parce que La question est ceci, si les Yézidis quittent leur lieu ancestral, la foi des Yézidis va disparaître. Aujourd'hui, il y a plus de Yézidis dans le monde qu'au Kurdistan, et surtout en Belgique, en Allemagne, il y a des fortes communautés Yézidis. Et notamment, j'ai connu une jeune Yézidie en 1999, lorsque Öcalan était à Rome, et Ferenc Uca, qui était devenu par la suite députée européenne en Allemagne, maintenant elle est élue dans, dans le Parlement kurde. Et elle travaille beaucoup pour la cause Yézidie. Et aujourd'hui, il y a plutôt une tendance d'intégrer ces filles sur place et maintenir des Yézidis dans leur territoire. Et aussi, il y a deux approches pour cela. Une approche, ce qui est créer un canton autonome comme à Rojava, à Kobané, au Afrin, au Kamishlo, pour les Yézidis. Ils se gèrent eux-mêmes, une autogestion et une autodéfense. Et d'ores et déjà, il y a des forces d'autodéfense ont été formées. D'autre côté, le gouvernement régional du Kurdistan de Massoud-Barzani voudrait annexer cette région qui est discutée auparavant entre le gouvernement central d'Irak. Parce que c'est une région kurde, mais ce n'était pas au Kurdistan. Aujourd'hui, Massoud Barzani voudrait profiter, annexer cette région au Kurdistan. Mais d'autre côté, il a le projet de créer un canton autonome qui est plus proche au Rojava, c'est-à-dire cette région est déjà frontalière avec le canton de Kamishlo. Voilà.
Voilà. Ouais, je pense que du coup, on part sur la guerre, effectivement. Le viol comme arme de guerre, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué à Résistance. Je crois que c'est toutes ces nouvelles, enfin, ces guerres actuelles qui touchent toutes les populations civiles et donc les femmes. On va y revenir dans quelques minutes. On fait une petite pause et on se retrouve pour la conférence de presse.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur Riff Dossel, d'avoir ouvert le placard. Et pour voir de plus près les cadavres qui nous appartiennent à tous.
C'est une expression française que...